السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا مخالفین اسلام کو
Les ennemis de l'islam n'ont cesse d'étaler leur animosité à l'encontre de l'islam, du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et du saint Coran. Selon les informations, un incident s'est passé quelques jours de cela et cet incident a causé des réactions violentes dans les pays musulmans. L'auteur de cet incident est le prêtre chrétien malveillant des États-Unis d'Amérique, celui qui, en septembre 2010, avait déclaré qu'il va brûler le Saint-Coran. À l'époque, en raison de certaines pressions, il n'a pas pu commettre son acte des plus infâmes. Mais deux jours auparavant, lui et ses compagnons ont commis cet acte immonde et lui et ses compagnons ont brûlé le Saint-Coran. Pour justifier cet acte, il a présenté cette sottise. Il a mis en place un jury composé de 12 membres. Et ils ont pris cette décision. Et il a appelé un imam d'une mosquée pour représenter le Saint-Coran, pour représenter les musulmans et pour défendre le Saint-Coran. Et après 6 heures, le jury a décrété que, na'oudhou billah, le Saint-Coran prône le terrorisme et l'extrémisme. C'est pour cette raison que l'on doit brûler le Saint-Coran. Ce prêtre était lui-même partie prenante et juge, on doit dire qu'il était lui-même coupable et juge. En tout cas, ce prêtre et son église n'ont pas beaucoup d'importance aux États-Unis d'Amérique. Le prêtre n'a pas beaucoup de suivants aux États-Unis d'Amérique. Son église est composée de quelques centaines de personnes. Il a commis cet acte immonde pour se faire un peu de publicité. Les médias ont repris ce sujet. En fait, ce sont les médias qui sont en train d'attiser ces flammes et au lieu d'essayer d'établir la paix, ils sont en train de semer le trouble. Ils le font afin de se faire de l'audience, afin d'avoir un peu de popularité. Ainsi, ces journaux ou ces sites web ou ces chaînes veulent se faire un peu de publicité. Mais les commentateurs ont déclaré qu'en dépit de cette couverture médiatique, beaucoup de personnes n'ont rien su à propos de cet incident. Ils ont interviewé nombre de personnes. Ils ont interviewé, par exemple, le représentant de l'organisation du Conseil des relations islamiques aux États-Unis d'Amérique. Ce dernier a refusé de faire tout commentaire. Il a dit que cette personne méprisante veut tout simplement accomplir cet acte pour avoir 15 minutes d'antenne à la télé. Et si nous faisons des déclarations à ce sujet, elle aura quelques minutes de plus de célébrité. Et nous ne voulons pas qu'il soit célèbre pour quelques minutes de plus. Voilà donc l'opinion de ce représentant. On a tout le temps commis ces actions méprisantes à l'encontre de l'islam. Que cette action méprisante soit accomplie devant quelques membres de son église ou que l'on commet cette action devant le grand public, lorsque le véritable croyant, avant de cette action, cela le blesse profondément. Mais cela ne veut pas dire que le croyant va placer un prix sur la tête de cette personne. Certaines organisations ont demandé la tête de ce prêtre. Cela ne veut pas dire non plus que le croyant va descendre dans les rues pour protester, pour saccager les biens d'autrui et pour renforcer davantage les mains de l'ennemi. La véritable réaction est de présenter les enseignements sublimes du Saint-Coran, de le faire par ses paroles, de le faire par ses actions, de le faire aussi par son comportement, afin que le monde commence à honorer ceux qui commettent ces actions méprisantes. Ceux qui sont aveugles ne verront pas la gloire du Saint-Coran. De toute façon, ils ne pourront pas voir cette lumière du Saint-Coran. Il y a des personnes justes de différentes religions qui ont loué le Saint-Coran et le Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, il y a des hindous, des sikhs, des chrétiens. Ces personnes n'ont pu que faire les éloges du Saint-Coran et du Saint-Prophète. Je vais citer un exemple ici. Des exemples qui parlent d'eux-mêmes, grâce auxquels l'on comprend le statut du Saint-Prophète aux yeux de ces non-musulmans. et l'on comprendra l'importance et la beauté des enseignements du Saint-Coran. Il n'y a pas que ce prêtre méprisant qui est en train de parler aujourd'hui contre l'islam. Un éditorialiste américain a écrit quelques jours de cela que certainement les musulmans ne sont pas méchants. Voilà donc la ruse de l'antéchrist. Il déclare les musulmans ne sont pas méchants, mais c'est le Saint-Coran qui leur enseigne la violence et le terrorisme. Ces personnes n'ont jamais lu le Saint-Coran. Ces personnes n'ont jamais vu le Saint-Coran. Elles se contentent d'exprimer leur haine et leur animosité. Je vais citer un extrait d'un ouvrage dont le titre en anglais est History of International Development of Europe par M. John William Draper. À la page 332 du volume 1 de cet ouvrage qui a été publié à New York, il est dit qu'il est tout à fait erroné de dire que le progrès du peuple arabe fut par l'épée. L'épée peut changer la religion du peuple. L'épée ne peut changer la pensée de l'homme. L'épée ne peut changer la voix de la conscience. L'auteur ajoute que toute personne qui lit le Saint-Coran sans parti pris sera étonné de constater que le Saint-Coran présente les raisons de son enseignement de la meilleure façon. Le Saint-Coran nous présente de hautes valeurs morales et d'autres vertus. L'ordre de ses enseignements sont très clairs et chacune de ses paroles sont emplies de sens. Chaque page est emplie de sens et l'on ne peut que louer le Saint-Coran. Voilà donc l'opinion de cet orientaliste. Il y a beaucoup d'autres orientalistes qui, en dépit de leur divergence religieuse, ont été contraints de dire la vérité. La voix de leur cœur leur a demandé de faire preuve de justice et ils n'ont pu que louer le Saint-Coran et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quant à ceux qui sont emplis d'animosité, ils ne voient rien. Dans les versets que j'ai cités au tout début, Dieu mentionne l'état de ces personnes. Le Saint-Coran est la vérité. Il n'y a pas de doute à ce sujet. La traduction du premier verset est comme suit. Dans ce Coran, nous avons expliqué la vérité de diverses manières, afin qu'ils soient avertis, mais cela ne fait qu'augmenter leur aversion. C'est le verset 42 de la sourate Bani Israël. Le Saint-Coran a brossé le tableau de l'état de ces personnes. Le Saint-Coran nous décrit l'état des koufars. Chaque verset du Saint-Coran présente d'une part des faits historiques du passé et le Saint-Coran présente aussi des prophéties. Ceux qui nourrissent animosité à l'égard de l'islam ont toujours existé et vont exister à l'avenir. En dépit des enseignements clairs du Saint-Coran, en dépit de tous ces éclaircissements, en dépit du fait qu'il a tout expliqué en détail sous différents angles, ils ne vont cesser d'objecter contre le Saint-Coran. Non seulement qu'ils vont y objecter, mais Dieu déclare que nous avons tout expliqué sous différents angles. Et au lieu de comprendre ces explications, cela va augmenter leur aversion, tout comme il a été dit « Wama yaziduhum illa nufura ». Cela va augmenter leur aversion concernant ces enseignements. Ils vont s'écarter avec aversion, avec haine de cet enseignement. Dans la même sourate, Bani Israël, Dieu a décrit davantage ces personnes. La traduction est « Et nous révélons graduellement du Coran ce qui est une guérison ainsi qu'une miséricorde pour les croyants, mais il ne fait qu'augmenter la perte des injustes. » Ici, il a été expliqué davantage que les gens vont lire le Saint-Coran selon leur nature. L'on dit que les yeux de ceux qui sont atteints de la jaunisse deviennent jaunes, et ces personnes voient tout en jaune. Celui qui est de mauvaise nature, celui qui est de mauvaise foi, va voir cela selon sa nature. Le Saint-Coran a annoncé qu'il est une direction pour les mutaqis, Hudal et mutaqin, comme il a été dit. Dès le début, il a été dit que cet enseignement que contient le Saint-Coran est supérieur aux autres enseignements et aux autres livres du passé. Et seuls ceux qui sont imbus de taqwa, de crainte de Dieu, verront cela. Cette direction sera pour ces personnes qui auront la crainte au cœur. Ces personnes peuvent commettre leur infamie, leurs actions méprisantes. Nous n'avons pas peur qu'elles pourront, par leurs actions, nuire aux enseignements du Saint-Coran. Dieu lui-même est responsable du Saint-Coran et de son statut élevé. Dans ce verset, l'on trouve des bonnes nouvelles pour les croyants. Dieu déclare que le Coran est une miséricorde pour vous, les croyants. Il sera tout le temps une miséricorde pour vous. Le Saint-Coran est aussi une guérison pour vos maladies spirituelles et pour vos maladies physiques. Le Saint-Coran comprend tout enseignement. Et si l'on lit ce verset avec le verset précédent, il y aura des bonnes nouvelles pour les croyants, à savoir que la vérité est venue et le mensonge a disparu. Le mensonge, la fourberie et les tromperies sont destinés à disparaître. Tel est le décret de Dieu. Ici, il a été dit clairement que l'on ne pourra pas maintenir l'honneur du Saint-Coran en mettant un prix sur la tête de quelqu'un ou en manifestant violemment ou en saccageant les biens d'autrui. Le véritable croyant est celui qui met en pratique les enseignements du Saint-Coran afin de présenter la supériorité du Saint-Coran. Il doit montrer au monde les enseignements véritables du Saint-Coran afin de faire la distinction entre la vérité et le mensonge. Lorsqu'il va présenter ces enseignements au monde, le décret odieux va mettre du baume au cœur des croyants. Ce décret de Dieu sera une miséricorde pour eux. Et ce sera l'heure de la victoire du Saint-Coran et l'heure de la victoire des croyants. Le monde n'a pas d'autre issue que de suivre le Saint-Coran pour son progrès spirituel et pour son progrès matériel. Le monde n'a pas d'autre issue que de traduire en pratique les enseignements du Saint-Coran. Nous, Ahmadi, nous ne devons pas nous soucier de leurs viles attaques, de leurs actions infâmes. Nous ne devons pas nous soucier de leurs ruses méprisantes. Nous avons accepté celui qui est venu répandre les enseignements du Saint-Coran dans le monde de nouveau. Dans la Sourate Al-Jumu'ah, Allah déclare « Yusabihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard » الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم Tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre glorifie Allah, le souverain, le très saint, le puissant, le sage. C'est lui qui a suscité parmi les illettrés un messager qui est des leurs, qui leur récite ses signes, qui les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse. Bien qu'ils eussent été auparavant dans un égarement manifeste. Et il le suscitera parmi d'autres des leurs qui ne se sont pas encore joints à eux. Il est le puissant, le sage. Il y a eu cette première période au cours de laquelle Dieu a envoyé le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et grâce à cet enseignement qui lui a été révélé, il a transformé l'état du monde et il a apporté une révolution dans le monde dans la situation était des plus déplorables. Il est apparu parmi des ignorants, des personnes qui étaient prêtes à s'entretuer pour des moindres broutilles. Il leur a récité les signes de Dieu et à travers cet enseignement sublime, il les a purifiés. Il a transformé des ignorants en personnes cultivées et instruites. Il les a emplis de connaissances. Il les a éclairés à travers ce seul livre de Dieu qui va exister jusqu'à la fin des temps. Le seul livre qui embrasse toute forme de connaissances et de spiritualité. Eux qui étaient auparavant comme des animaux se sont transformés en êtres humains. Et tout comme l'a dit le Messie promis à l'Islam, il en a fait des êtres humains, ensuite il en a fait des êtres cultivés, ensuite il en a fait des hommes de Dieu. Dieu nous a accordé sa grâce de nouveau. Il a envoyé le Messie promis à l'Islam, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed Mustafa, afin qu'il leur récite ses signes, afin qu'il fasse que nous progressions dans notre spiritualité, afin que nous puissions progresser dans notre certitude et dans notre foi. Il est venu nous guider dans cette bonne direction, afin que nous puissions nous purifier. Il est venu nous présenter la vérité concernant ce livre divin, ce grand livre qui est une guérison, une miséricorde pour les croyants. Comment ce livre est-il une guérison pour nous, les croyants? Dans ce dernier livre de loi, on trouve des perles de sagesse cachées. Il nous les a montrées. C'est une faveur qui a été accordée aux croyants. Ceci a été accordé uniquement aux serviteurs du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ceci a été accordé à ceux qui vont suivre les commandements de Dieu. Ceci a été accordé à ces personnes qui vont accomplir les prophéties faites par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis alayhi sallam nous a présenté la grandeur du Saint-Coran et il a fait la comparaison avec la Torah en disant que les prêtres se sont leurrés complètement en disant que le Saint-Coran n'a rien apporté de nouveau et que la Torah a déjà évoqué l'unicité de Dieu et d'autres commandements. Un sot peut penser que la Torah évoque l'unicité de Dieu et évoque aussi les droits de Dieu et le fait de rendre culte à Dieu et les droits de serviteur de Dieu, et que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais il va se tromper, celui qui n'a pas médité sur la parole de Dieu. Qu'il soit clair qu'on ne trouve pas trace de beaucoup de points concernant Dieu qui ont été évoqués dans le Saint-Coran et non pas évoqués dans la Torah. La Torah n'évoque pas les points subtils de l'unicité de Dieu. Le Saint-Coran nous fait comprendre que l'unicité de Dieu ne signifie pas uniquement se détourner de l'adoration des hommes, des idoles, de la matière et des corps célestes. Il y a trois niveaux de l'unicité de Dieu. Le premier niveau concerne la masse, c'est-à-dire ces personnes qui veulent se protéger de la colère de Dieu. Le deuxième niveau concerne les élus, cela concerne ceux qui veulent se rapprocher de Dieu davantage que la masse. Et le troisième niveau concerne la crème de la crème de la communauté, ces personnes qui désirent atteindre la plus grande proximité de Dieu. Le premier niveau de la tawhid signifie ne pas adorer les idoles, se détourner de toute chose dont le pouvoir est limité, de toute création, qu'elle soit créée sur terre ou dans les cieux, et d'éviter d'adorer ses créations. Le deuxième niveau de tawhid, c'est de considérer Dieu comme celui qui détient tout pouvoir pour ses affaires, c'est-à-dire que le résultat dépend de Dieu, et de ne pas placer ses confiances dans les moyens à tel point que d'en faire des partenaires de Dieu. Par exemple, dire que j'aurais subi des pertes si X n'était pas là, ou dire que si Y n'était pas là, je serais détruit. Si l'on prononce ces paroles et que l'on accorde quelque importance à X et Y, ce sera considéré comme du shirk de notre part. Le troisième type de tawhid, c'est de se départir de ses intérêts personnels par amour pour Dieu et de s'annihiler complètement dans l'unicité de Dieu. La Torah nous présente-t-elle de tels niveaux de tawhid? La Torah ne nous présente pas ni l'enfer ni le paradis. On trouve quelques indications, certes. Ainsi, la Torah ne nous présente pas tous les attributs de Dieu. On ne trouve pas des détails à ce sujet. Si la Torah avait présenté ces paroles qui ont été présentées dans le Saint-Coran, à savoir « Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad », si le Saint-Coran avait présenté ces paroles, eh bien les chrétiens auraient évité d'adorer une créature de Dieu. La Torah ne nous présente pas tous les aspects des droits, mais le Saint-Coran nous présente tout cela à la perfection. Par exemple, Allah déclare « Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba », c'est-à-dire Allah vous enjoint la justice et que vous accordiez des faveurs aux autres et que vous serviez les autres comme si ce sont des proches parents. C'est-à-dire, cette sympathie pour l'humanité doit être naturelle. Vous ne devez pas faire étalage des faveurs accordées. Cette sympathie doit être naturelle à l'instar de la sympathie qu'éprouve une mère pour son enfant. La Torah ne nous présente pas des arguments logiques pour prouver l'existence de Dieu, l'unicité de Dieu et ses attributs. Le Saint-Coran nous présente des arguments logiques concernant ces décrets, concernant la révélation, concernant la Nabouwa. Le Saint-Coran a traité tout cela sous un angle philosophique et a facilité la tâche pour ceux qui sont en quête de vérité. Le Saint-Coran a présenté ces arguments clairement et personne n'est apte à présenter d'autres preuves concernant l'existence de Dieu. Une autre raison pour la révélation du Saint-Coran est que les autres livres du passé, les livres de Moïse, la Torah et les évangiles, ont été envoyés pour un peuple spécifique, c'est-à-dire pour les enfants d'Israël. Et il a été dit clairement que ces livres ont été révélés à un peuple spécifique et pas pour l'humanité en général. Mais le Saint-Coran comprend l'humanité tout entière et a pour tâche la réforme de l'humanité tout entière et pas un peuple spécifique. Il a été dit que le Saint-Coran était révélé pour l'humanité tout entière et il a pour but la réforme de tout un chacun. Voilà donc un aperçu de ce trésor qui nous a été présenté par l'imam de l'époque. Il a parlé à propos de la supériorité du Saint-Coran. Nous sommes chanceux en tant qu'Ahmadi. Et nous serons considérés comme chanceux lorsque nous allons suivre tous les préceptes du Saint-Coran, lorsque nous allons traduire dans la pratique ces préceptes, lorsque nous allons montrer au monde cet enseignement éclairé que vous êtes en train de critiquer. C'est ainsi que nous allons nous acquitter de notre devoir des membres de la communauté des Akhrines. Dans un sermon auparavant, j'ai cité l'exemple de la Jama'a de l'Allemagne. Là-bas, ils ont organisé des expositions sur le Saint-Coran dans différents endroits. Dans certains cas, ils ont utilisé des salles d'église et cela a eu un effet très positif. Ils ont eu une bonne couverture médiatique. Et j'ai dit que les autres Jama'as aussi doivent en faire de même. Mais on n'a pas encore suivi ces conseils. Si on avait agi ainsi aux États-Unis d'Amérique, si on avait organisé ces expositions sur le Saint-Coran, eh bien les médias qui sont intéressés par l'islam et qui sont en train d'écouter d'une part ces personnes méprisantes vont aussi se tourner vers ce que nous avons à dire. C'est vrai que la Jama'a des États-Unis d'Amérique a fait, par la grâce d'Allah, des efforts conséquents pour présenter le message de paix de l'islam et de la communauté. Ils ont organisé des séminaires, ils ont distribué des dépliants. Ce travail a été très bien fait, ils ont eu une bonne couverture médiatique, mais ils n'ont pas organisé ces expositions comme on devait le faire. La tâche du croyant, c'est d'être vigilant dans tous les domaines. Si l'on organise cela aux États-Unis et ailleurs, si l'on organise ces expositions et que l'on loue des salles, car des fois, lorsqu'on organise cela dans des mosquées, il n'y a pas beaucoup de visiteurs parce que l'islam a mauvaise presse, parce que les gens se sentent intimidés par l'islam. Donc si on loue des salles pour ces expositions et si on présente les traductions du Saint-Coran, si l'on présente ces enseignements sublimes et si l'on présente aussi de belles affiches et des bannières à ce sujet, eh bien, certainement, cela va attirer les gens. Vous aurez une bonne couverture médiatique, d'une part, car ces temps-ci, ils sont intéressés par l'islam. Certainement, ils ont écrit des choses positives. Dans la plupart des cas, ce qu'ils disent à propos de la communauté est positif. Dieu sait quelle est leur intention, mais en tout cas, nous devons profiter de cette situation. Nous participons certes dans des exhibitions qui sont organisées ici et là, mais on n'a pas une bonne couverture médiatique, car au même endroit, il y a d'autres expositions et les gens sont intéressés par d'autres choses. Lorsque nous allons faire quelque chose séparément, cela aura un effet tout autre. Si tout est bien organisé, l'on pourra faire connaître au monde les enseignements du Saint-Coran. Il faut connaître aussi ses préceptes et ses enseignements. Les gens disent beaucoup de choses à propos du djihad ces temps-ci, mais nos adversaires ne disent pas dans quelle situation la lutte armée est permise en islam. au même endroit où Dieu a donné la permission de prendre des sorts. Dieu nous a demandé de défendre les chrétiens, les juifs et les autres. Et il n'a pas parlé uniquement de la protection des musulmans. Voilà donc les complots de l'antéchrist qui essayent de nuire au message de l'islam. Nous voyons cette campagne de temps en temps, ici et là. C'est une campagne que nous allons devoir arrêter complètement et pour cela nous allons devoir faire des efforts soutenus. Et seule la Jamaat Ahmadiyya pourra accomplir cette tâche. J'ai cité le Messie premier al-Islam et grâce à ces paroles, on comprend l'importance des enseignements du Saint-Coran. Il a fait une comparaison entre le Saint-Coran et la Torah. L'islam a souligné l'importance de la paix et de la justice. À ce sujet, Allah déclare La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah ne vous interdit pas d'être bienveillant et d'agir équitablement envers ceux qui ne se sont pas battus contre vous à cause de votre religion et qui ne vous ont pas chassé de vos habitations. Assurément, Allah aime ceux qui sont équitables. Allah ne nous demande pas de couper toute relation avec ceux qui ne se sont pas battus contre nous. Il ne nous interdit pas d'être juste envers eux. Ensuite, Allah déclare Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist wa la yajrimannakum sha'anu qawmin ala la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ô vous qui croyez, soyez fermes de la cause d'Allah, emportant témoignage avec justice. Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitable, car l'équité est plus près de la piété. Et craignez Allah, assurément Allah est très conscient de ce que vous faites. Allah déclare Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُوبِ وَصَاحِبِ الْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Et adorez Allah et ne lui associez rien. Témoignez de la bonté envers les parents, envers les proches parents, les orphelins et les indigents, le voisin qui vous est apparenté et le voisin qui vous est étranger, le compagnon qui est à votre côté, le voyageur et ceux que vos mains droites possèdent. Assurément, Allah n'aime pas les gens orgueilleux et vaniteux. Dans ces versets, Dieu nous demande d'être bienveillant envers les koufars, ceux qui ne sont pas nos ennemis. Ensuite, dans le verset de la sourate Al-Maïda, il est dit que vous devez être juste même envers vos ennemis. L'hostilité a certaines limites. Si l'ennemi est en train de commettre des actions méprisantes et viles, vous ne devez pas vous départir de la justice et être hostile outre mesure envers eux. Le châtiment doit être à la mesure de la crime et pas au-dessus. Vous ne devez pas commettre les mêmes actions abjectes qu'ils commettent. Et dans le troisième verset qui est de la sourate An-Nisa, il est dit que vous devez être bienveillant envers les parents et envers tout être humain. Vous devez être bienveillant envers l'humanité tout entière, afin que vous puissiez établir la paix dans la société. Voilà les enseignements que l'on doit mettre en pratique afin d'établir la paix. Voilà la garantie de la paix aujourd'hui de la société. ce prêtre qui a commis cet acte des plus abjects, cet outrage du Saint-Coran n'est pas en train de garantir la paix. Certainement, ces personnes vont attirer la colère de Dieu. Lorsque nous voyons ces actions infâmes, ces attaques contre l'islam et le Saint-Coran et le Saint-Prophète, nous devons en premier lieu essayer de suivre les enseignements de l'islam. Et nous devons présenter à la société les enseignements sublimes de l'islam. Pour cela, nous devons utiliser les moyens que nous avons à notre disposition. Que Dieu nous en accorde la possibilité. Avant de terminer, je veux évoquer un grand érudit de la communauté, un aîné de la communauté, qui était aussi un hafiz du Coran, qui avait un grand amour pour le Saint-Coran. Il avait aussi fait des études poussées. Il avait fait son doctorat et il a laissé son nom dans le domaine de l'astronomie. Mais pour lui, tout le temps, la science a suivi le Saint-Coran. Il est décédé quelques jours de cela. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son nom est Hafiz Saleh Mohammed Al-Adin. Depuis les quatre dernières années, il était le président de la Sadar Anjuman Ahmadiyya de Qadian. Il avait occupé plusieurs postes. Il fut membre de la Sadar Anjuman Ahmadiyya. Il avait complété ses études de physique à l'université Osmania. Ensuite, il avait fait son doctorat aux États-Unis d'Amérique, dans le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique. Il a complété son doctorat en 1963 à l'université Yerkes à Chicago, aux États-Unis d'Amérique. Il possédait de grandes qualités. Il avait écrit plus de 50 articles dans le domaine de la recherche qu'il avait publié dans plusieurs journaux. Et il a reçu plusieurs prix. Par exemple, en 1980, il a reçu un très grand prix, la Magnetsaha Award for Theoretical Science. Il a reçu ce prix en Inde en 1980. Il a reçu de nombreux prix, mais il était d'une grande humilité. Il a écrit à propos de la dynamique de la galaxie, à propos aussi des éclipses solaires et lunaires. Il a écrit à propos de l'éclipse du soleil et de la lune. Et concernant la véracité du Messie promis à l'islam, il a fait plusieurs discours à ce sujet à Qadian, au Royaume-Uni. Et en 1894-95, pour le centenaire de ce signe, il a écrit plusieurs articles dans les magazines de la communauté. En 2009, pour la Jalsa de Qadian, il a fait un discours sur l'existence de Dieu à la lumière de la création. Ce fut un très grand discours. Toutes ses déductions étaient basées sur le Saint-Coran. Tous ses articles scientifiques étaient déduits des versets du Saint-Coran. Il avait une très grande aptitude dans ce domaine. C'est pour cette raison qu'il était enclin à écrire de tels articles. Il était affilié avec plusieurs universités. C'est une très longue liste que je peux mentionner ici. Ensuite, il a reçu un autre prix du Great Minds of the 21st Century de l'American Biographical Institute. En 2003, il a écrit plusieurs articles concernant la véracité du Messie et du Mehdi et l'éclipse du soleil et de la lune. Il a écrit à propos de la véracité du Messie premier l'Islam à la lumière des éclipses du soleil et de la lune. Il a écrit un autre ouvrage, Notre Dieu. Il a aussi écrit The Dynamics of Colliding Galaxies, The dynamics of the stellar system, le but de l'homme et comment atteindre ce but, le point de vue des scientifiques sur l'existence de Dieu. Il a servi la communauté à différents niveaux. Il fut amir de la province, il fut secrétaire des finances, il fut président d'une jamaat, il fut membre de la Sadar Anjuman Ahmadiyya et il fut, en fin de compte, président de la Sadar Anjuman Ahmadiyya. Je l'avais nommé à ce poste. Il avait un lien très ferme avec Dieu. Son épouse a dit qu'une fois, ils se sont arrêtés à Karachi, à l'aéroport, et les douaniers lui ont arrêté parce qu'il avait des appareils électroniques avec lui. Il était très soucieux. Les gens qui voyagent au Pakistan savent comment se comportent les douaniers au Pakistan et comment ils arrêtent les gens. En tout cas, son épouse a déclaré que j'ai regardé autour de moi et j'ai constaté que Saleh Al-Adin Saheb avait disparu. J'étais tout soucieuse. Après quelques minutes, il est retourné et il m'a dit qu'il était parti faire deux rakats de prière, car seul Dieu pourrait nous aider. Ensuite, ils sont partis voir les douaniers. Il a dit certainement, ils vont nous retourner nos affaires. Ils sont partis voir des douaniers et ce n'étaient pas les mêmes personnes. Ces derniers lui ont demandé des excuses et lui ont retourné ses affaires. Dans cette situation, une autre personne aurait été soucieuse et serait partie voir d'autres personnes. Il était le gendre du Maulvi Abdul Malik Saheb. Il a dit que à Gardian, je ne pouvais pas partir à la mosquée et cela le blessait profondément. Sa belle-sœur a rapporté un incident et d'autres personnes aussi en ont fait mention. Saleh Al-Adin Saheb a déclaré que quand j'avais 26 ans, je me suis présenté à Cheikh Yaqub Ali Irfani. Quand je suis entré à l'intérieur, et Cheikh Yaqub Ali Irfani m'a demandé « Est-ce qu'on va faire cela aujourd'hui ou après ?» Le Cheikh Yaqub Ali Irfani a déclaré que j'ai vu en rêve que le premier calife était venu. Et que vous, c'est-à-dire Saleh Al-Adin Saheb, s'est assis à la place du premier calife. Dans ce rêve, Cheikh Yaqub Irfani a vu le premier calife qui s'est levé et qui a laissé sa place à Saleh Al-Adin. Saleh Al-Adin Saheb a déclaré que je suis loin du statut du premier calife, Hadrat Maulvi Nuruddin. Mais lorsque je suis venu à Qadian, bien des années plus tard, le calife m'a nommé le président de la Sadar Anjuman Ahmadiyya après quelques temps. Ce fut après le décès de Mian Wasim Saheb. Saleh Al-Adin a déclaré que quand j'ai lu l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya, j'ai su que le premier président de la Sadar Anjuman Ahmadiyya fut le premier calife. C'est ainsi que le rêve de Irfani Saheb s'est accompli bien des années plus tard. Il avait un très grand amour pour le Saint-Coran. La veille d'un examen, il n'a cessé de mémoriser le Saint-Coran. Sa mère lui a dit que tu dois te préparer pour l'examen. Mais lui, il n'a cessé de mémoriser ou de lire le Saint-Coran cette nuit-là. Il a mémorisé le Saint-Coran chez lui. Il partait dans le sous-sol pour mémoriser le Saint-Coran. Et lorsque son père a vu cela, il a fait venir un mualim pour l'aider à mémoriser le Saint-Coran. Il avait une très grande fidélité envers le califat. Il était très sincère envers le califat. Et il avait un lien ferme avec les derviches de Qadian. Et en chaque situation, il se tournait vers Dieu. Il était simple, plein d'abnégation. Il lisait tout le temps le Saint-Coran. Au cours de la Jalsa Salana, il était l'imam pour la prière de Tahajjud dans la mosquée Aqsa. Et il aimait parler à propos de la foi. Il n'était pas intéressé par le monde. Un missionnaire m'a écrit à propos d'un incident. Il a dit qu'il s'était présenté pour le mariage d'un proche. Saleh Aladdin Saheb était présent là-bas et la famille du marié ont demandé à Saleh Aladdin Saheb de prononcer le serment de Nikah en raison de son statut et en raison de l'importance de sa famille. Ce missionnaire était aussi présent. Et Saleh Aladdin Saheb était très en colère. Il a dit que vous ne respectez pas les missionnaires. Comment se peut-il qu'un missionnaire soit là et moi je prononce ce serment? Si vous répétez cela, je ne vais pas me présenter à votre mariage. En 2008, après le serment du califat, son état avait changé complètement. Et il était toujours prêt à prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il avait rétabli des contacts avec ses collègues scientifiques. Il a ouvert un compte email et les a contactés. Il les a invités à Qadian à plusieurs reprises en dépit de sa faiblesse physique. Il partait à Delhi pour les rencontres scientifiques afin de rencontrer ces scientifiques et il leur a présenté plusieurs ouvrages à propos de la communauté et les a souvent invités à Qadian. En 2008, les Nations Unies ont organisé l'année internationale de l'astronomie. Il est parti à Bangalore et il a fait un long discours sur la science et le Saint-Coran. Ce fut un discours important et il a prononcé ce discours en dépit de sa faiblesse. Et après cela, il a rencontré plusieurs autres scientifiques. Il n'a cessé de faire des recherches sur les éclipses solaires et lunaires. Et il est dit qu'un missionnaire l'aidait pour ses tâches. Après avoir complété ses devoirs à l'Anjuman, il partait rencontrer ce missionnaire qui a rapporté ceci et faisait des recherches dans plusieurs domaines. Il a déclaré que l'on doit faire une équipe de jeunes qui doivent partir à l'extérieur de la ville et chercher la nouvelle lune et on doit avoir une base de données concernant la nouvelle lune car la science ne peut nous dire quand peut-on voir la nouvelle lune à l'œil nu. Si on a cette base de données, on pourra répondre à plusieurs objections. Donc il méditait dans ce domaine. Il a déclaré que voir la lune à l'œil nu est très important et les progrès des musulmans sont basés sur le fait qu'ils ont tenu en considération les cycles lunaires. Et dans le Saint-Coran, il est dit « L'état à l'amour, ardad as-sinin wal hisab ». Certainement, on doit voir la lune à l'œil nu. Et il méditait sur les étoiles. Il a dit qu'il y a un scientifique français qui avait dit que ce n'est pas uniquement la lumière des étoiles qui nous atteint, mais il y a une autre lumière qui vient et qui éclaire nos esprits. Et il méditait sur le Saint-Coran, tout comme il a été dit que l'on doit méditer sur la création des cieux et de la terre. Il était parmi les Ulul Albab. Son grand-père fut le premier Ahmadi de la famille. Celui-ci a dit que j'étais un commerçant, je n'étais pas intéressé par la religion. Un jour, j'ai lu la Review of Religion. Il y avait une annonce concernant la philosophie des enseignements de l'islam. Le grand-père de Saleh Aladdin Saheb a déclaré que j'ai commandé ce livre et cet ouvrage a dissipé toute obscurité et cela a apporté un grand changement en moi. J'ai commencé à jeûner et j'ai commencé à prier régulièrement. J'ai même commencé à faire la prière Tahajjud. Le deuxième calife avait vu un rêve à propos du grand-père de Saleh al-Din Saheb. Ce dernier avait des contacts avec Mufti Sadiq Saheb, avec Cheikh Yaqub Irfani Saheb. Il avait aussi des contacts avec Hafiz Roshan Ali Saheb. Ils en ont fait la mention au deuxième calife. Et le deuxième calife connaissait quelque chose à propos de lui. Il a dit que j'ai vu en rêve qu'il va accepter l'Ahmadiyya et il va apporter des grands changements spirituels et qu'il va servir la communauté. Et par la grâce de Dieu, il a accepté l'Ahmadiyya. Le deuxième calife a évoqué le grand-père de Saleh al-Din Saheb. Il déclare qu'il est en tête de liste concernant ceux qui servent la communauté. Je connais sa situation financière. Sa situation n'est pas aussi bonne que les gens le pensent. Mais Dieu lui a accordé un cœur pur et je suis fier de lui. Car avant même qu'il ait accepté l'Ahmadiyya, Dieu m'avait informé concernant sa sincérité. Alors que je ne l'avais pas encore vu, il avait une grande douleur pour la communauté et moi-même j'en vis ses sacrifices. Je le considère comme une faveur de Dieu. Si seulement les autres membres de la communauté et les commerçants suivent son exemple et qu'ils soient aussi sincères que lui. Molvi Mohamed Ismail Yadgiri a évoqué les sacrifices de Seyyed Saheb, le grand-père de Saleh al-Din. À l'époque, une roupie n'était pas divisée en 100 sous. À l'époque, une roupie était divisée en 16 annas. Et le Molvi Ismail déclare que j'ai constaté que Seyyed Saheb dépensait 16 annas pour la cause de la foi et garder que deux anas pour sa personne. Le deuxième calife a déclaré que le grand-père de Saleh al-Din Saheb avait cette grande ardeur pour prêcher le message de l'Ahmadiyya à l'exemple des compagnons du Messie promis comme Molvi Burhanuddin et il a l'ardent désir de dépenser pour la cause de la religion comme Seyyed Abdurrahman. Dieu a envoyé Seyyed Abdurrahman au Messie promis comme un ange et Dieu m'a envoyé Seyyed Saheb comme ange pour m'aider. Voilà donc une présentation de la famille de Saleh al-Din Saheb ainsi que de sa personne. Saleh al-Din Saheb était d'une très grande simplicité. Son fils a écrit à ce sujet qu'un jour, ils étaient à la gare de train de Delhi et ils portaient une chemise rouge. Et les porteurs de la gare portent aussi des chemises rouges. Une famille s'est présentée et ils croyaient qu'il était un porteur et lui ont demandé de porter leur bagage. Sans rien dire, il a pris leur bagage et les a transportés. Donc je parle de Hafiz Saleh al-Din Saheb. Il a transporté donc leur bagage sans rien dire. Et lorsque les voyageurs ont voulu le payer, il a tout simplement répondu que vous m'avez demandé de porter vos bagages et je vous ai aidé, je ne vais pas demander un prix pour cela. Et ces gens étaient très embarrassés. Il était d'une grande simplicité et d'une grande humilité. Lorsqu'il est venu pour la Jalsa pour la première fois en 2003, sa santé n'était pas très bonne. Il y a eu des problèmes concernant son transport de l'aéroport et concernant son logement, mais sans se plaindre, il a tout accepté. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde. et qu'Allah fasse aussi que ses enfants puissent marcher sur ses pas, son épouse, et décéder quelque temps de cela. Je vais diriger sa prière funéraire après la prière de Jumma, et je vais diriger la prière funéraire de Mokaram Colonel Mohamed Saïd Saeb, qui est décédé le 15 mars 2011 au cours de son voyage vers le Pakistan. Il était missionnaire honoraire, il fut aussi secrétaire général, il a occupé plusieurs autres postes. Il était aussi le coordinateur de l'Ahmadiyya Gazette au Québec. Il a travaillé sur la traduction du Saint-Coran en langue française et en langue gourmouki. Lorsque le quatrième calife avait lancé le plan Buyutul Haram à Rabwa, il avait désiré donner 100 000 roupies de sa part et de la part de sa famille, et il n'a pas pu le faire. Et lorsqu'il est venu au Canada, il a offert 100 000 dollars pour la construction de la mosquée Baitul Salam. Il a aussi offert de grosses sommes pour la publication du Saint-Coran dans deux langues. Qu'Allah exalte son statut. Donc je vais diriger la prière funéraire de ces deux personnes.